Êtes-vous prêt pour la parole? Ça, c'est pas la parole d'un homme, en passant. C'est une parole de Dieu. Hey, c'est-tu quelque chose? Hein? C'est comme on va voir l'architecte. On va voir les plans que Dieu a pour notre vie. Et sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Jérémy de s'avancer et ouvrir vos cœurs à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu.
Bonjour. On va aller dans Apocalypse. C'est pas une blague. Au chapitre 3. Et je vais prier pour que vos cœurs soient ouverts à la parole. Seigneur, je te remercie pour cette parole ce matin. Ta parole, elle est puissante, elle est extraordinaire. Ta parole échange et peut changer n'importe quelle personne. Elle peut transformer n'importe quel individu. Et tu nous montres dans ta parole comment il faut agir en tant que chrétien, en tant que fils et filles remplis du Saint-Esprit. Je prie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que les cœurs soient ouverts ce matin à ta parole et au changement. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Plus que le bienvenu, sans toi, je ne peux rien faire. Je te demande de venir te manifester dans les cœurs, dans les vies, produire du changement pour tout cœur qui a soif ce matin. Amen. Apocalypse au chapitre 3 et au verset 14. On l'a lu il y a 2 semaines. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, c'est Jésus qui parle. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Au verset 21, le vainqueur je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est une parole qui est destinée à l'Église. Et il est dit que celui qui a des oreilles écoute, ou que celui qui a des oreilles entende. Pour ceux qui étaient là la semaine prochaine, à un moment j'ai partagé sur la prière et l'importance de la prière. Et je vous ai expliqué que, la semaine dernière, pardon, je suis un visionnaire, c'est pour ça. Je vous ai expliqué que Jésus a dit « Ma maison sera une maison de prière. » Et je pense que si on vient à l'église, c'est parce qu'on croit que c'est Jésus qui l'a voulu. Et on définit, on marche dans la vision que Jésus a donnée de l'église. Et Jésus a dit que sa maison serait une maison de prière. C'est comme ça, il l'a écrit. Donc, normalement, quand tu es un chrétien, une chrétienne, tu dois venir au réunion de prière. Ça va, c'est logique jusque-là? Il n'y a pas beaucoup de amen. Donc, j'avais partagé par rapport au réunion de prière, et ce matin, je m'attendais à ce qu'il y ait 3 fois plus de monde, je vous avoue. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière. Donc, à nouveau, je vous encourage à participer au réunion de prière de l'église. Parce que c'est comme ça que Jésus l'a voulu. Il dit, je connais tes œuvres, c'était une parenthèse, que je referme. Tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Donc dans l'Église, il y a une sorte de chrétien qui est tiède. Et Jésus dit clairement, les tièdes, les chrétiens tièdes, ils sont indigestes. C'est-à-dire qu'on les voit, ils ont l'enveloppe du chrétien, ils ont la consistance et la contenance du chrétien, ils ont peut-être même l'odeur du chrétien, et quand on les goûte, ils sont fades. Et Jésus est venu chercher une église, et viendra chercher une église qui est bouillante. Donc Jésus se sert de gens qui sont bouillants. Dans Matthieu, au chapitre 19 et au verset 17, il y a un jeune homme qui est venu auprès de Jésus et qui lui a demandé « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui a répondu au verset 17 « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Donc tu peux marcher dans la sainteté. Et être un chrétien tiède. Et Jésus nous appelle à être des gens bouillants. Ce qu'il veut, le Seigneur, c'est que quelqu'un qui vient à lui, il soit complètement soumis à sa seigneurie. On ne sert pas Dieu selon ce qu'on a envie de faire, mais on sert Dieu selon les principes qu'il a établis dans sa parole. On ne sert pas Dieu selon nos façons de penser, et on ne peut pas imposer à Dieu notre façon de le servir. Et tous, la Bible dit qu'on est des ambassadeurs. Tous, nous sommes des serviteurs. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Donc Dieu s'attend à toi. Et le chrétien bouillant, ce n'est pas celui qui va gesticuler partout et qui va crier, mais c'est celui qui va produire des œuvres. Jésus a dit, je connais tes œuvres. Et parce que je vois tes œuvres, je sais que tu es tiède. Donc Jésus a clairement dit, il y a une sorte de chrétien qui est indigeste. Et on a vu, il y a 2 semaines, que une des raisons pour lesquelles Jésus parlait à cette église de Laodicée, c'est parce qu'elle ne connaissait pas Jésus intimement. Et je vous avais exhorté par rapport à ça. Et j'espère que vous avez pu passer du temps avec Dieu, plus que jamais, passer du temps dans sa présence et toucher sa présence. Mais une sorte aussi de ces chrétiens de Laodicée, ce sont des gens qui soit n'ont pas d'œuvre, ou alors qui effectivement ont tout l'emballage, ils ont l'enveloppe, etc. Mais leurs œuvres sont faibles, sans puissance, ils n'accomplissent rien. Et on doit se poser des questions. On marche dans une vision. Dieu, c'est un visionnaire. Et Dieu appelle chacune de nos vies à porter des fruits. Donc tu dois te demander, mais où sont mes fruits? Est-ce que je porte des fruits? Et si tu n'en portes pas, tu dois te remettre en question. Dans Matthieu au chapitre 5, au verset 13, Matthieu 5, 13, Jésus dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. La terre, c'est le monde. C'est les gens. C'est les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas Dieu. Et toi, tu es le sel de la terre. Celui qui a du goût dans ce monde, celui qui a du goût dans ta famille, celui qui a du goût là où tu habites, c'est toi. Les gens peuvent être beaucoup plus riches que toi, peuvent avoir beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus d'amis, entre guillemets. Mais le sel de la terre, c'est toi. Ce qui a du goût sur cette terre, c'est toi. Tu as du goût. Et on va voir au travers de différents versets. À notre nouvelle naissance, le feu du Saint-Esprit est venu créer en nous, nous amener à la nouvelle naissance. C'est ce qu'on a appelé le premier amour. Mais le temps et les circonstances, et aussi nos choix de vie, nos décisions de vie, et notre consécration, ont peut-être enlevé ce goût qui était en nous. Jésus a dit que s'il y a bien quelque chose dans ce monde qui peut donner du goût au monde, c'est toi. Par contre, si tu n'as pas de goût, comme je l'ai dit, si tu n'as juste la consistance, l'emballage, eh bien, on te jettera. On jettera le sel et l'emballage du sel à la poubelle. Si tu as déjà goûté, si tu as acheté du sel, un kilo, et qu'il n'avait aucun goût, tu vas le jeter à la poubelle. Et Jésus montrait par là que si tu n'as pas de goût, les gens ils vont pas vouloir de toi. Ils vont pas vouloir de ton message. Les gens ils cherchent quelque chose. Donc tu peux avoir l'apparence de la solution, mais si tu n'es pas bouillant, tu ne vas pas intéresser les gens. Les gens ils veulent pas d'une religion. Jésus attirait les foules. Jean-Baptiste attirait les foules. Paul attirait les foules. Pierre attirait les foules. Et les chrétiens, ils disent, oui, mais les gens, ils veulent pas entendre parler du Seigneur. Si, ils veulent entendre parler de Dieu. Ils veulent entendre parler de Dieu. Ils ont soif de Dieu. Ils ont vraiment soif. Oui, ils ont pas soif de la religion. Ils sont dégoûtés par la religion. Mais ils ont soif de Dieu. Donc, obligatoirement, si tu es bouillant, normalement, les gens doivent être attirés à toi. Tu dois attirer les gens. Les gens sont attirés par le goût. Et Jésus l'a dit, tu es le sel de la terre. Donc, obligatoirement, les gens, ils ont besoin de sel. Ils ont besoin de toi. Ils vont être attirés par toi, surnaturellement. Dans Luc, chapitre 14, et au verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. Donc, il y avait toute une foule qui était là. Et peut-être, les chrétiens, ils se disent, on n'est pas beaucoup. Mais quand on rassemble toutes les églises, ça fait quand même une bonne foule. C'était des gens qui suivaient Jésus. Ils étaient là, ils suivaient Jésus, ils suivaient le maître, ils suivaient ses enseignements. Peut-être ils priaient quand ils priaient avec lui. Ils étaient là quand il exerçait le ministère. Mais Jésus, à un moment, il va se retourner. Et là, il va faire le tri. Il va faire le tri parmi la foule. Verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si tu ne hais pas ta vie, tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Il écrit dans les Actes que c'est à partir de ce moment-là que les disciples furent appelés chrétiens. Tu ne peux pas être appelé chrétien si tu n'es pas un disciple. Tu ne peux pas vivre ta propre vie avec tes ambitions personnelles, avec tes désirs personnels, avec tes projets personnels, avec tes envies personnelles, avec tes besoins personnels, et être un disciple de Jésus-Christ. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Un disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui a abandonné complètement sa vie à Dieu. Complètement. Il n'y a plus rien de lui en lui. Seigneur, tout ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, je ferai ce que tu veux. Ça devrait être notre prière. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qu'ils verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Donc, Jésus marchait avec cette foule et au bout d'un moment, sa patience est arrivée à bout. Vous allez dire « Dieu est patient, oui. » Par exemple, lorsqu'il était dans ce temple, il a fait un fouet. Il a balayé tous les vendeurs parce que sa patience était arrivée à la limite. Et dans ta vie, s'il y a des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, ne sois pas patient envers elles. Mais dresse-toi contre elle. Dresse-toi contre la pauvreté. Dresse-toi contre le manque de prière. Dresse-toi contre le manque de consécration. Dresse-toi contre le manque de fruits. Dresse-toi contre la tiédeur. Dresse-toi contre ton manque d'envie de prier. Dresse-toi contre le manque de fruits. Je vous ai dit, dans ce monde, on est constamment en train de marcher. constamment. Le temps marche pour nous. Tu dors, le temps marche pour toi. Tu pries, le temps marche pour toi. Tu travailles, le temps est toujours en train de marcher. Et on ne peut pas laisser le temps dominer nos vies. Mais on doit prendre ce temps et l'utiliser pour le royaume de Dieu. Et on doit se dresser contre les choses qui arrivent dans nos vies et qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, Jésus fait une sélection. Et vous savez, Jésus, il voulait pas accueillir le maximum de gens. Il n'était pas en train d'essayer d'avoir tout le monde avec lui. Mais alors que les gens étaient attirés à lui, il faisait le tri. Il imposait ses règles. Il donnait sa façon de voir les choses. Et dans l'église, il y a tout un tas de gens. Tout un tas de gens. Et Jésus fait le tri. Il fait le tri. Et lorsque quelqu'un vient à Christ, on doit être clair avec les gens. Devenir enfant de Dieu, c'est gratuit, même si on doit abandonner certaines choses. Mais devenir un disciple de Jésus-Christ te coûtera tout ce que tu as. Ça te coûtera ta vie. Ça te coûtera tout ce que tu as. Mais ça vaut le prix. Ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup de vivre pour donner aux gens. Alors jusqu'où es-tu prêt à te donner ? Jésus a dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul et il ne peut pas porter du fruit. Donc tu dois mourir quelque part pour pouvoir vivre en Christ et porter du fruit. À un autre moment dans la parole de Dieu, il va dire, toujours à la foule qui était moins nombreuse, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, beaucoup parmi la foule, et même plusieurs de ses disciples, ont arrêté d'aller avec lui. Jésus était radical. Il n'était pas comme beaucoup d'églises. L'église accueille les gens, c'est une bonne chose. Mais Jésus faisait la sélection. Jésus faisait le tri. Et Pierre va lui dire, mais... Quand Jésus va lui poser la question, mais toi, vous en êtes pas aussi? Il a été jusque là. Il n'y avait presque plus personne autour de lui. Il dit, mais vous, il voulait tester. Jusqu'où tu es prêt à aller pour moi? Jusqu'où tu es prêt à aller pour moi? Quel sorte de chrétien tu es? Est-ce que tu es tiède? Est-ce que tu es froid comme ceux qui sont partis la première fois? Est-ce que tu es tiède comme ceux qui viennent de partir ou est-ce que tu es bouillant? Et Pierre était bouillant. Pierre ne comprenait pas tout, mais Pierre était bouillant. Et il a dit, Seigneur, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est toi ma vie. Donc Jésus n'était pas intéressé par la foule, mais il est intéressé par des individus qui sont prêts à tout quitter pour lui. Des hommes et des femmes qui sont prêts à tout donner pour lui. Et il a choisi seulement 12 disciples d'ailleurs. Seulement 12. Sur qui il a investi son temps. Il a investi, oui, son argent. Il a investi beaucoup pour ses disciples. Il a investi sa vie pour ses disciples. Et il investira sa vie pour toi si tu lui donnes toute la place. Donc Dieu nous demande toujours de quitter quelque chose. Au verset 27, donc il est parlé de la croix. Quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Et qu'est-ce que la croix du chrétien? On va pas porter la croix de Christ, il l'a portée pour nous. Mais notre croix en tant qu'enfant de Dieu, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça notre croix. Se soumettre à la volonté de Dieu. C'est juste ça. Ta croix en tant qu'enfant de Dieu, ce fardeau, ce joug doux et léger, c'est se soumettre, se laisser faire, se laisser influencer par le Seigneur. Dieu va t'influencer. Il va te faire aller dans des endroits nouveaux, dans des choses nouvelles. Tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux changer. Il y a une possibilité pour toi. Au verset 28 à 30, il est parlé de cet homme qui bâtit une tour et qui doit réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Quand on a accepté Jésus, on l'a accepté comme sauveur. Mais tellement peu de gens l'ont accepté comme Seigneur, celui qui dirige réellement leur vie. Jésus a dit que celui qui me suit renonce à lui-même. Il était radical, Jésus. Il était radical. Et j'aime sa radicalité, je ne sais pas si ça se dit. C'est pour ça que je veux être radical. Jésus était radical. Et si tu t'es donné à Christ pour le salut, c'est une bonne chose. Mais si tu t'es marié, par exemple, juste pour que ta femme te fasse à manger, tu t'es trompé complètement. Vraiment. Si tu t'es marié avec ton mari pour qu'il répare ta voiture, tu t'es trompé. Vraiment. Si c'est ça ton objectif, tu t'es marié pour avoir quelque chose en retour, non. Tu t'es marié pour donner, je crois, en tout cas. Ça devrait être ça. Et en tant que croyants, nous vivons pour donner. Je pense que tous, on a dit, Seigneur, je te donne ma vie. Tous, on l'a dit. Je te la donne. Elle m'appartient plus. Ta vie ne t'appartient plus. Elle est plus à toi. Arrête de batailler tes propres batailles parce que Jésus veut les batailler pour toi. Si seulement tu relâches. Relâche-toi. Relâche-toi entre ses mains. Donc le jour où on fait de Jésus notre Seigneur, celui qui dirige notre vie, on a abandonné complètement notre vie passée. Et à partir de ce moment-là, on est comme cet homme qui bâtit cette tour. On doit reconstruire notre vie. On doit abandonner des choses, certaines relations. On doit revoir nos façons de penser par rapport aux finances, par rapport au travail, par rapport à la famille. Et les gens, la Bible dit qu'ils se moquent de celui qui bâtit la tour et qui ne termine pas. Quand tu es devenu chrétien, tu as annoncé aux gens, tu as donné ton témoignage, tu leur as montré le projet de vie que tu avais, tu leur as dit que Dieu était bon, tu leur as dit qu'il avait changé ta vie, mais qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens peuvent dire de toi? Est-ce qu'ils sont là en train de se moquer? Ah, t'as vu ce qui lui arrive encore? Regarde-le comment il a l'air misérable et triste. Moi, je veux beaucoup mieux que lui. Est-ce que tu es comme cet homme qui bâtit sa tour et qui ne peut pas la terminer? Donc, lorsque quelqu'un vient à Christ, on devrait être clair avec eux. Ok, le salut, c'est gratuit. Mais si tu veux devenir un chrétien, tu dois devenir un disciple. Un disciple de Jésus-Christ. Celui qui vit plus pour lui-même, mais pour les autres. Au verset 35, on va lire à partir du verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles entende. Ça vous rappelle le verset qu'on a lu tout à l'heure? Je m'en aperçois seulement maintenant. Apocalypse. Il parlait toujours du chrétien tiède, fade, sans goût. Et le chrétien tiède, il n'est pas utile, ni pour la terre, ni pour le fumier. Et il est dit, on le jette dehors. Dehors, c'est le symbole de la mort. Par exemple, dans Matthieu 5, 13, il est dit, on l'a lu tout à l'heure, donc il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et dans Matthieu 8, 12, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans les ténèbres du dehors. Donc le dehors, c'est un symbole de la mort. Et la terre et le fumier, c'est le symbole du monde. La terre, le terrain. Je vous ai envoyé, je vous ai donné un terrain. Donc ce terrain, c'est le symbole du monde. Dans Luc, au chapitre 13 et au verset 6, Jésus va donner une parabole. Il va dire, il y a un homme, il avait un figuier planté dans sa vigne. Et à un moment, il est venu chercher du fruit et il n'en a pas trouvé. Alors il a dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et j'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, maître, laisse-le encore cette année. Et là, c'est un symbole de Jésus. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Un figuier, ça vous rappelle quelque chose? Parce que Jésus est venu auprès de ce figuier. Il était avec ses disciples. Et ce figuier n'avait aucune figue. Il a maudit ce figuier, et ce figuier est mort, desséché. Et il y a un autre passage qui dit que c'était même pas la saison des figues. Donc, si au bout d'un moment, Dieu s'attendait à que tu portes du fruit, et que tu n'en portes pas, alors qu'il y avait des saisons où tu devais porter des fruits, parce que nous avons tous dans une année une saison où nous devons porter du fruit, si on fait ça sans porter du fruit au bout d'un moment, même quand ce sera plus la saison de porter du fruit, Dieu s'attendra à ce que tu portes du fruit. Donc au départ, il y a une grâce particulière sur toi. Il y a une grâce pour que tu puisses porter du fruit. Et Dieu te donne une faveur spéciale pour que tu puisses porter du fruit. Et si tu n'obéis pas, au bout d'un moment, il te réclamera du fruit, que ce sera à toi de travailler et de récolter. Ce sera beaucoup plus dur. Il y aura une grâce beaucoup moins forte sur toi. Tu devras travailler plus dur. Tu devras retravailler le champ qui avait été travaillé 3 ans avant et dans lequel tu devais porter du fruit. Donc Jésus s'attend à ce qu'on porte du fruit. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Il dit, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Le fumier, c'est le monde. Tu es le figuier et Jésus, si tu ne portes pas de fruits, va mettre du fumier autour de toi. Jésus va mettre des gens autour de toi. Tu es planté en terre et la Bible dit que il y a le vrai disciple de Jésus-Christ, en tout cas le croyant, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui va donner son fruit en sa saison. Il est planté. Tu es un figuier planté près d'un courant d'eau et Jésus met des gens autour de toi, du monde, des femmes, des hommes, autour de ta vie, qui sont là et qui ont été placés par Dieu pour que tu portes du fruit envers eux. Et tu es le sel de la terre. C'est toi qui dois les saler. Dans Apocalypse, Jésus a dit, « Je connais tes œuvres. Si seulement tu étais froid ou bouillant. » La Bible dit que l'eau salée ne peut pas produire de l'eau douce d'une façon naturelle. Donc tu ne peux pas dire « Je suis salé » et produire de la tiédeur et quelque chose qui n'a pas de goût. Donc si tu es salé, les gens ils vont trouver que tu as du goût. Dans Jean 17, 18, il est dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Donc de la même manière que le Père a envoyé Jésus dans le monde, de la même manière, tu es ici pour le monde. Tu es ici pour porter du fruit pour le monde. John Wesley a dit, si vous le connaissez, ma paroisse, mon église, c'est le monde. On fait beaucoup de publicités, je parle des églises en général, il y a des publicités dans les journaux, il y a des publicités parfois dans les télévisions, dans les radios, etc. Mais si on veut toucher les gens, il faut aller dans la rue. Les gens sont dans la rue. Il n'y a pas un moyen d'évangéliser, je préfère dire d'annoncer l'évangile, parce que évangéliser, ça fait un peu... Les gens n'aiment pas ça. Hein. Parfois, vous avez des panneaux, j'ai vu ça à Paris bien des fois. Réunion d'évangélisation. Venez écouter la parole de Dieu et être sauvé par Jésus-Christ. Vous pensez que les gens, ils ont envie d'aller dans une réunion d'évangélisation? C'est comme si vous êtes en train de pêcher et au bout de votre canne à pêche, vous mettez, si les poissons savaient lire, hein, vous mettez un gros panneau, venez vous faire attraper. Vous pensez qu'ils vont mordre à l'hameçon? Réunion d'évangélisation. Ah tiens, je vais me faire évangéliser aujourd'hui. Bref. Vous m'avez perdu. Mon église, c'est le monde. Et moi, je vous l'ai dit il y a 2 semaines, j'aime l'église locale. Parce que la Bible dit que c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Là où il y a des frères et des sœurs qui sont réunis, c'est là où Dieu va envoyer son onction. Et en fait, l'église, c'est là où Dieu te donne de la saveur. C'est là où Dieu va mettre plus de sel en toi. Quand tu es à l'église, quand tu es entre frères et sœurs, Dieu met du sel en toi. Il met du sel en toi. T'as de plus en plus de saveur. Il y a de la saveur qui vient en toi. Mais ce sel, si tu ne le donnes pas aux gens, si tu as trop de sel en toi, tu vas faire une indigestion. Tu vas tomber malade. Parce que tu as tout gardé pour toi. Sans jamais donner. Comme une femme enceinte qui aurait un bébé et qui voudrait le garder pour elle. Et que jamais qu'il sorte. Et ça fera quoi? Elle va mourir. Elle va mourir. Et beaucoup de gens sont comme ça. Et là, je parle des croyants. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Ce sont le temple du Saint-Esprit. Les temples du Saint-Esprit. Et ils prennent le Saint-Esprit et jamais, jamais, ils ne le laissent se manifester. Ils peuvent parler de leur Église, mais ils parleront pas de Jésus-Christ qui sauve. Aujourd'hui, on dit, bon, on va annoncer l'Évangile en étant un bon exemple dans la société, en gagnant beaucoup d'argent, les gens verront qu'on est prospère, etc. Bon, c'est une chose, mais les gens ne seront pas sauvés comme ça. Les gens vont être sauvés par le message de Jésus-Christ. C'est Jésus qui sauve. C'est lui qui sauve et on doit parler de Jésus. Donc, l'Église, c'est là où mon sel est salé. Mais mon sel, il n'est pas pour l'Église. Il n'est pas pour l'Église. Il est pour le monde. Et ma lumière n'est pas pour l'Église. Elle est pour le monde. Il n'y a pas de ténèbres dans l'Église. Mais les ténèbres sont dehors. Et tu dois éclairer ce qui est dehors. Dans Matthieu, au chapitre 5, et au verset 14, on retourne sur le passage qu'on a lu au départ. Il est dit, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. » Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres. Je connais tes œuvres. Bonne et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Comment on va rendre de la gloire à Dieu? En ayant des bonnes œuvres envers les gens qui ne le connaissent pas. Jésus a dit ce qui me glorifie, c'est vos fruits. Et à un moment dans l'Ancien Testament, il dira, je hais vos fêtes, je hais vos louanges, je les déteste, parce que vous portez aucun fruit. Votre vie montre que ce que vous faites dans le temple, c'est du cinéma. Parce que votre vie montre que ce que vous dites dans le temple, vous ne le faites pas dans vos maisons et dans les rues. Matthieu 5, verset 16 donc. Cette lampe, elle doit éclairer, elle doit briller. Et cette lampe, elle est lumière parce que à l'intérieur d'elle, soit il y a du feu, soit il y a la puissance de lumière. Jésus a dit que, Paul a dit, nous portons la parole dans des vases de terre. Et on peut lire dans 2 Corinthiens au chapitre 4. On voit pas mal de versets ce matin. 2 Corinthiens chapitre 4 et au verset 7. Nous portons ce trésor, 2 Corinthiens 4, 7, dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il y a un trésor en toi. Il y a un trésor en toi. Il y a une puissance en toi. Tu as un trésor à l'intérieur de toi. On s'en fiche de l'emballage. On s'en fiche. Il y a un trésor en toi. Sérieusement, il y a un trésor en toi. Il y a des perles en toi. Il y a quelque chose de incroyablement riche qui vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'intérieur de toi. C'est pas ailleurs. C'est pas ailleurs. C'est à l'intérieur de toi, en ce moment même. Il y a des trésors pour le monde. Il y a des réponses pour le monde. Il y a des solutions pour le monde. Il y a des bénédictions pour le monde. Il y a la faveur pour le monde. Il y a la gloire pour le monde. Il y a la présence de Dieu pour le monde. Tout en toi. Nous avons tout en Jésus-Christ. La Bible dit tout est à nous. Tout est là. N'allons pas chercher ailleurs. Tout est en nous. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es béni. Vraiment, la bénédiction de Dieu est sur toi. La bénédiction de Dieu est sur toi. Si tu as donné un don à quelqu'un, en tout cas tu as été, je ne sais pas, chez un avocat ou je ne sais pas, chez à ta banque, et tu as dit que je donnerais tel don à telle personne à telle date. Quand il arrive la date à laquelle ce don doit être donné, je pense que la personne va être avertie, non? Il y a un don qui est pour toi. Il reçoit une lettre. Vous avez reçu tel don. Il faut dire aux gens ce qu'ils ont reçu. Jésus vous a dit ce que vous avez. Vous avez des trésors en vous. Des trésors. La Bible dira, ils sont donc inexcusables. On a des trésors en nous. Donc si tous les jours on est en train de galérer dans cette vie, alors que t'es pauvre, etc., et tu sais que dans ton jardin, à 50 cm seulement sous terre, il y a un trésor. Tu crois que tu vas galérer tous les jours de ta vie? Tu crois que tu vas aller au travail? Tu crois que tu vas pleurer et demander des prêts aux banques? Et que tu vas tous les jours dire « Ah, quand je serai riche, quand je serai riche !» T'as un trésor à 50 cm sous tes pieds. Une personne qui ferait ça, mais elle serait complètement stupide. Stupide! Et Dieu a mis un trésor en toi. Et on a un trésor inestimable en nous. La puissance de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit. Je crois que Dieu va m'utiliser pour chasser des démons. Je crois vraiment que dans ma vie, je vais voir des paralysés, être guéris. Des gens être délivrés de la puissance démoniaque. Tu as été créé pour une chose, pour que les ténèbres soient chassées. Les gens, ils sont complètement oppressés par le diable. Complètement oppressés. La Bible dit que le Dieu de ce siècle les a aveuglés complètement. Ils sont complètement aveuglés. Il y a une oppression qui pèse sur eux. Et toi, tu as la puissance de faire sortir le monde de cette oppression. Il y a une puissance en toi. Incroyable, inestimable. Au travers de ta parole, au travers de ta foi, ce trésor qui est en toi, au travers de ta parole, va venir toucher les gens. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Christ qui le fait. C'est Christ qui agit en nous. Dans Matthieu 13, 44, je vais lire pour vous. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Les gens, ils cherchent un trésor. Ici, partout, il y a des. Vous pouvez acheter des trucs là pour gratter et gagner de l'argent. Même à la caisse, supermarché, n'importe où, on en vend partout. Les gens, ils cherchent un trésor. Et nous, on est là constamment et tout le temps, entouré de gens qui cherchent un trésor. Alors que le trésor est en nous. Mais annonçons aux gens ce qui est en nous. Disons aux gens. On est en train de mentir aux gens. On est en train de les voler. Parce que ce trésor, ce sel, n'a pas été donné pour nous. Il a été donné pour les autres. Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus a dit, mon disciple, c'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même. Il a abandonné sa vie pour vivre pour les autres. Ça, c'est mon disciple. 2 Corinthiens 4, au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Des fois, il y a des gens qui lisent ce verset en disant « Ouais, c'est des incrédules, etc. » Mais ce verset a été écrit avec beaucoup de compassion. Beaucoup de compassion pour les gens perdus. Pourquoi on annonce l'évangile? Parce qu'on aime les gens. Et la Bible dit que dans les derniers temps, et nous y sommes, l'amour du plus grand nombre et dans l'Église se refroidira. L'amour dans le monde, ça parlait de l'Église. Dans l'Église, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Alors que la Bible dit aussi que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Répandu. Et quand la Bible parle de répandu, c'est qu'il est répandu. C'est-à-dire que dans ton cœur, dans ton esprit, il y a un fleuve, un flot incroyable d'amour. Mais c'est nous qui le retenons. Et c'est nous aussi qui pouvons le manifester. Donc, en toi, tu as déjà reçu l'amour pour le monde. Mais c'est toi qui peux y entrer ou c'est toi qui peux bloquer ce fleuve. Il y a un fleuve. La Bible dit des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Ça va couler de leur esprit. Il y a des fleuves pour ce monde. Il y a un trésor en toi. Il est dit qu'ils périssent. Ils périssent. Ça, c'est leur condition. Donc les gens dans le monde, à chaque seconde, ils sont en train de mourir à petit feu. Chaque seconde de leur vie les rapproche de la perdition éternelle. Parfois, je pense à l'éternité sans Dieu. Et au bout d'un moment, ça, avec ta tête, tu peux pas comprendre. Comment quelqu'un peut souffrir éternellement? Ça s'arrête jamais. Ça s'arrêtera jamais. Ils vont souffrir sans jamais ressentir une paix, une guérison, un bien-être. Les gens vont souffrir. Et l'Église est en train de jouer, est en train de s'amuser, est en train de bénir Dieu, est en train de prier, mais jamais d'annoncer l'Évangile. C'est une bonne chose. Paul dira, tout est utile, tout est possible, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Et Jésus vient chercher une épouse qui s'est préparée. Jésus est intéressé par des disciples. Par des disciples. Des gens qui portent du fruit. Pas des gens qui se posent tout un tas de questions. Non, ils font. Ils avancent. Tu peux avoir des questions. Tout le monde a des questions. On n'a pas réponse à tout. Mais on a la réponse. On a la solution dans ce monde. Et tu peux avoir des questions, c'est pas grave. Tu peux avoir entendu ici et cela. Lui, il a annoncé l'évangile, ça n'a pas marché. Lui, ceci et cela. Là, il est chrétien, il est malade. On s'en fiche complètement, complètement. On s'appuie sur quoi? Sur la parole de Dieu. La Bible dit qu'il accompagnerait notre parole. Il accompagnerait ce qui va sortir de notre bouche, sa parole en nous. Par des signes. Par des signes. Il en sera fait selon ta foi. Tu crois que tu verras pas de signes? Tu verras jamais de signes. Tu crois que réellement que tu vas avoir des miracles? Tu verras des miracles. Si tu payes le prix, tu verras des miracles. Donc, l'incroyant, il marche et il ne sait pas qu'un jour ou l'autre, il va tomber. Il est en train de marcher et il n'imagine pas que au prochain pas, il va s'écraser par terre. Il va s'écraser par terre. Imaginez que vous êtes dans un village un peu perdu, là, dans le nord du Canada, et il y a tout un tas de gens autour de vous dans ce village qui sont en train de mourir de faim parce qu'il y a une famine. Plus personne n'a à manger. Et toi, tu as un énorme entrepôt avec de la nourriture pour 50 000 personnes. Et tu vois les gens mourir. Tu vois les gens souffrir. Tu vois des enfants pris par la malnutrition. Tu vois des femmes pleurer sur leurs enfants. Tu vois des maris pleurer sur leurs femmes. Tu vois des maris essayer de chasser sans jamais rien trouver. Et toi, tu te régales et tu manges chez toi. Oh, alléluia. Tu me donnes de la nourriture en montant. Oh, tes grâces et tes bontés se renouvellent chaque matin pour moi. Oh, je suis la tête, je serai jamais la queue. Je vais conquérir. Celui qui gagne, le vrai vainqueur, c'est celui qui donne. C'est celui qui donne. T'as un entrepôt avec d'innombrables bénédictions. Et je suis pas en train de vous condamner, je suis en train de vous lire la parole de Dieu. Si vous êtes sous la condamnation, elle n'est pas de Dieu. J'ai condamné personne. Je suis en train de vous déclarer qui est le vrai disciple de Jésus-Christ. Tu as un entrepôt avec des bénédictions abondantes, incroyables. Incroyable. Des bénédictions. Mais tu peux même pas imaginer. Mais tant que tu n'auras pas ouvert la porte de cet entrepôt, Tu ne sauras pas ce qu'il y a dedans. Commence à l'ouvrir. Et là, tu vas marcher. Tu vas commencer à donner aux gens. Et plus tu avanceras, plus tu verras, waouh, vers le fond, il y a des choses incroyables. Quand je suis entré, j'imaginais même pas. Au début, c'était juste des petites choses. Parce qu'ils avaient tellement faim. Au début, si tu leur donnes un gros steak, ils vont pas le prendre. Ils vont le vomir. Donc au début, il y avait des petites choses dans cet entrepôt. Tu donnes aux gens. C'est petit. Au début, c'est petit. Ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas. T'as annoncé l'évangile, la personne n'a pas été sauvée, c'est pas grave, t'as déposé une semence. Ne méprise pas cette semence. Si tu commences à mépriser cette semence, elle va revenir. Elle va revenir. Et au bout d'un moment, les gens, waouh, il y a de la nourriture chez lui. Il y a quelque chose chez lui. Il paraît qu'il a un entrepôt. Ah, il paraît qu'il a un entrepôt. Avec plein à manger. Mes enfants sont en train de mourir de faim. Allons vite, vite, vite. Il a la solution. Il y a la solution pour moi. Et le réveil se produit. Le réveil ne commencera pas avec quelqu'un d'autre. Il commencera avec toi. Il y a des gens dans les réveils, des gens qui vivent le réveil, et il y a des gens qui, dans ce même réveil, ne vivent rien du tout. Ils sont simplement en train de regarder. Il y a toujours des spectateurs. Toujours. Celui qui est vraiment réveillé, il porte du fruit. Il annonce l'évangile. Au verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » On ne se prêche pas soi-même, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. On prêche celui qui est parfait. On prêche le Dieu illimité. On prêche le Dieu à qui tout est possible. Tu n'es pas en train de te prêcher toi-même. Tu prêches le Dieu illimité. Les gens, il faut leur dire, Dieu est capable de tout pour toi. Mais si toi-même tu ne peux pas le croire, comment ils vont le croire? Comment ils vont croire? Il y a des gens qui ont été amenés à Christ. Les gens qu'ils ont amenés à Christ, ils avaient foi que pour leur salut. Ils ont vécu une vie chrétienne horrible, dans la pauvreté, dans la misère. Ils connaissaient pas leur héritage. Mais si toi, tu sais que ton Dieu est illimité, peu importe ce que tu vis dans ta propre vie, peut-être que lui, il aura plus de foi que toi. Si tu sais que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu illimité, tu vas annoncer un Dieu illimité. Tu vas pas annoncer un Dieu qui peut être. Non, tu vas annoncer la parole de Dieu. Le résultat ne dépend pas de toi. Il y aura ta foi qui va jouer, mais Dieu enverra toujours. Toujours. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pas à toi d'être l'avocat de Dieu et de comprendre les pourquoi. Toi, tu obéis à Dieu. Donc, on prêche pas en fonction de ce qu'on vit, mais on prêche en fonction de ce que Dieu a écrit sur lui, sur qui il était. Dans Romains chapitre 1 et au verset 15, Paul va dire, verset 14, on va lire, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, de là mon vif désir, un bouillant désir, de vous annoncer l'évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai pas honte de l'évangile. Il y a deux choses pour lesquelles le croyant doit mourir. C'est la honte et la peur. J'ajouterai l'incrédulité, mais j'aurai pas le temps d'en parler. La honte et la peur. Dans Marc 8, je lis pour vous, au verset 38. En effet, quiconque aura honte de moi, je fais que lire, hein, je suis désolé, et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, au milieu des gens, au milieu du monde, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Un autre passage, dans 1 Timothée 1:8. Des paroles qui étaient adressées à quelqu'un qui voulait servir Dieu. 2 Timothée 1:8. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. C'est clair qu'il y a la puissance de Dieu qui va t'accompagner. À partir du moment où tu n'as pas honte de l'Évangile. Un autre passage encore. Hébreux chapitre 11 et verset 16. Vous pourrez méditer sur tout ça à la maison. Mais en réalité, ils aspirent, et là on parle des hommes et des femmes de foi, ceux qui étaient bouillants pour Dieu, puisque la Bible en parle, dans Hébreux 11, une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et un peu plus loin, on parle de Jésus. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection. En vue de la joie qui lui était proposée, ou à la place de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, le fait de se soumettre à Dieu, le Père, méprisé la honte. Et à ce moment-là, parce qu'il a méprisé la honte, il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Parce qu'il a méprisé la honte. Est-ce que tu as honte de l'Évangile ? Est-ce que tu as honte de Jésus ? Il y en a beaucoup qui ont honte de Jésus. Quand quelqu'un vient te voir, qu'est-ce que tu fais avec des problèmes ? Il te parle de ses problèmes. Est-ce que des fois tu t'es dit, ouais, je lui parle de Jésus, mais... Est-ce qu'il y a de la honte ? En tout cas, s'il y a de la honte, on doit mourir à cette honte. Et la deuxième chose, c'est la peur. Dans 1 Samuel, au chapitre 17, 1 Samuel, chapitre 17. C'est l'histoire de David. Et on va lire à partir du verset 2. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Héla. Et ils se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. C'était le peuple de Dieu, donc. Saül et les hommes d'Israël, c'était le peuple de Dieu, et Philistins, ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Donc, les gens du monde, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, les enfants du diable. Et là, on va parler de Goliath. Il était de Gath et avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Il avait sur la tête un casque de bronze. On connaît bien nos ennemis, hein. On en parle souvent. Et portait une cuirasse à écailles qui pesait 5 000 sicles de bronze. Waouh. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze. En plus, il portait un bandoulière. On connaît vraiment bien son ennemi. Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Tout ça, là, c'est des choses qui se disaient parmi le peuple de Dieu et les informations qui circulaient. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. J'ai appris que sa lance pèse tant de poids. Et ils étaient là, effrayés les uns et les autres. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille ? Ne suis-je pas moi, le Philistin ? Et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. » L'intimidation. Le Dieu de ce siècle, la Bible dit que c'est lui qui agit dans ce siècle. Donc, tu penses que tu vas venir avec ta parole, annoncer l'Évangile, la lumière, à quelqu'un qui est fils du diable, c'est la Bible qui donne cette expression, et que ça ne va pas poser de problème à son père, au Dieu de ce siècle, ça va lui poser des problèmes. Et le diable va vouloir t'intimider. L'intimidation, la crainte ne sont pas de Dieu. La crainte n'est pas de Dieu. Et le diable va venir t'intimider dans tes pensées et parfois dans tes circonstances aussi. Et parfois, c'est sûr, à travers la personne à qui tu parles. Mais tu dois parler la parole. Et Goliath va dire, choisissez un homme qui descende contre moi. Choisissez un homme. Et la Bible dit à un moment, c'est Dieu qui parle. Y a-t-il un homme qui se tienne à la brèche envers pour mon peuple? Y a-t-il un homme? Est-ce qu'il y a un homme aujourd'hui? Jésus a dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai des hommes de foi, des femmes de foi? Est-ce que tu fais partie du vrai peuple de Dieu? Est-ce que tu es prêt à combattre le Goliath qui est ta peur, le Goliath qui est ta honte? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et surtout, qui commence à agir dans ces choses. C'est bien d'entendre des choses, mais c'est mieux d'y marcher. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, mais pourquoi je vois pas ci, pourquoi je vois pas ça? Ils n'accomplissent pas la parole. Comment ils peuvent espérer avoir du fruit de cette parole? Donc, le Goliath, qui est ici un symbole de la peur, tu dois l'affronter. Au verset 11, il est dit que Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Au verset 24, à la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. Ils avaient peur, ils étaient dans la crainte. La crainte de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu t'envoie dans ce monde pour annoncer sa parole. Et là, David qui était le méprisé de la famille, le petit dernier, celui auquel on n'avait pas pensé, le faible de la famille, il va s'approcher. Et au verset 26, quand il va voir cette même chose que le peuple de Dieu avait vue, la même situation, il va dire, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? Le même peuple, la même situation. Le peuple de Dieu était en train de regarder à eux leur force. Et David regardait au Dieu vivant, au Dieu puissant. Et lorsque tu annonces l'évangile, mais n'espère en rien de toi-même. Il n'y a rien de bon en toi pour les gens. Mais espère au Dieu tout-puissant, infiniment grand. Éliab, son frère aîné, au verset 28, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et ta malice, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Donc, quand tu as pris la décision d'annoncer l'évangile, il y a même des gens de ta propre famille qui vont te donner des paroles de découragement. Des paroles, mais vous imaginez pas la puissance qu'elles ont. Il y a des paroles dans ta vie, tu avais une vision par rapport à quelque chose, on t'a donné des paroles qui t'ont complètement freiné. Au début, tu étais vraiment motivé, tu étais vraiment dans la foi. Et il y a un frère qui est venu te dire qu'il avait essayé ce que tu voulais faire et que ça n'avait pas marché. Tu as lu un enseignement qui disait que ça ne marchait pas. Tu as entendu quelque part dans l'église quelqu'un qui disait qu'un frère à lui avait fait ça et que ça ne marchait pas. Ils ont tué ta foi. Ils ont tué ta foi. Mais quel que soit le rêve que Dieu t'a donné, arrête d'écouter les gens. Oppose-toi à ces choses. Si tu entends quelque chose de quelqu'un et d'un frère ou d'une sœur, t'es pas obligé de rentrer en conflit avec lui. Et dès que tu rentres dans ta voiture, dès que tu rentres dans ta maison, commence à confesser la parole. Commence à confesser ce que dit réellement la Bible. Et tu cries, et tu t'opposes à cette chose. Ce monde, il est tellement violent que seuls les gens violents s'en emparent. Seuls les gens violents s'en emparent. Les gens qui sont tièdes, ils vont être mangés par le monde, ils vont être jetés et piétinés par les gens de ce monde. Parce qu'ils n'auront plus aucun goût. Mais les gens bouillants, ceux qui vont jusqu'au bout, ceux qui confessent la parole de Dieu, ceux qui croient réellement ce qui est écrit dans cette parole que nous croyons et par laquelle nous avons été sauvés, ceux-là verront la gloire de Dieu. Dieu a mis des rêves en toi. Dieu a mis des choses extraordinaires en toi. Il t'a parlé. Il y a des choses. Et tellement de gens meurent sans jamais avoir être entré dans ces choses-là. Tu dois rentrer dans ta destinée. Et l'Église, la destinée de l'Église, je vous dis, c'est de sauver des gens. La destinée de l'Église, c'est pas de faire des petites conférences. C'est pas ça, la destinée de l'Église. Faire des conférences, c'est une excellente chose. Parce que c'est là que le sel t'est distribué. Mais ta destinée, c'est de sauver les gens. Ta destinée, c'est pas d'avoir un super travail et d'être riche. C'est pas ta destinée. C'est pas d'avoir des enfants. C'est pas d'avoir un mari, une femme, des parents. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un ne hait pas son père, sa femme, ses enfants, tout, il peut pas être mon disciple. Ta destinée, c'est de gagner des gens. Tu crois être chrétien, tu dois gagner des âmes. En tout cas, tu dois annoncer l'évangile. Puisque Jésus a dit, le vrai disciple, il donne. Et Jésus a dit, ce que j'ai fait, faites-le. Ce que je vous ai dit, criez-le sur les toits. Parlez-les dans les maisons. Allez dans les rues. À un moment, il y a un roi qui va faire un repas et tout le monde va s'excuser. J'ai ceci, j'ai cela, toujours des excuses. Il va dire, allez dans les rues. Allez dans les rues. Et amenez des gens dans les rues. Parfois, il y a une église qui est là. Et il y a une personne qui arrive dans cette église et qui est vraiment mal. Il sort de la rue, il est complètement détruit. Il accepte le Seigneur. Et la seule personne bouillante dans cette église, c'est lui. C'est terrible. On doit et on est appelé à être des gens bouillants. Il doit avoir le feu du Saint-Esprit sur toi. Arrête de réfléchir, arrête de... Tu peux pas amener la gloire de Dieu avec ton raisonnement, avec ta tête. Le Saint-Esprit travaille avec notre esprit. Le Saint-Esprit travaille avec notre esprit, avec l'homme et la femme spirituelle. Paul dira que l'homme charnel, l'homme animal, l'homme psychique, l'homme qui fonctionne dans ses pensées, ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Impossible. Mais celui qui croit, celui qui est spirituel, qui croit, confesse la parole de Dieu, il verra cette parole agir. Il verra cette parole se manifester dans sa vie. Il en sera fait selon ta foi. Cette parole, elle est... C'est fou, la responsabilité qui est sur nous. Jésus a mis la responsabilité sur nous. Il nous a établis comme ambassadeurs. Il y a un royaume que tu dois conquérir. Un royaume sur lequel Dieu t'a établi. Une famille. Des collègues. Des gens. Ton boulanger. Ton facteur. La caissière. Des gens envers qui tu dois porter du fruit. Et si tu réalises que dans ta parole, il y a une puissance, il n'y a pas besoin de faire des grandes discussions avec les gens. Tu viens et tu sèmes. Tu sèmes. Il y a 4 sortes de terrains. Il y a un terrain qui va porter beaucoup de fruits. Sème 4 fois. Sème 4 fois. Tu sèmes. Et tu sèmes pas mon église ceci, mon église cela. Non. Jésus peut te délivrer. Jésus délivre n'importe quel homme, il peut te délivrer. Dieu m'a délivré, il va te délivrer par sa puissance. Je connais le Dieu qui guérit. La Bible dit que moi qui crois, si je prie pour toi, tu vas être guéri. On n'est pas en train de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer après? Tu t'en fiches. Tu crois ce que la parole de Dieu dit. Dieu nous a pas dit, essayez de réfléchir, qu'est-ce qui va se passer après? Dieu a dit, voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. N'essaye pas une fois, fais-le. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu continues, tu persévères, cette parole est réelle. C'est pas un mensonge. Dieu ne ment pas. Et Dieu ne fait acceptation de personne. Tu n'es pas moins que rien. Mais même si tu étais le plus faible, ce serait encore excellent. Parce que plus tu es faible, plus rien ne peut sortir de toi, plus tu es inéduqué même, plus tu réalises que par toi tu ne peux rien faire et plus Dieu peut t'utiliser. Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il utilise les choses faibles. Si je prends ce pupitre d'une manière détachée, en pièces détachées, et que devant vous je vous le construis, est-ce que vous allez trouver ça extraordinaire? Non. Si par contre je prends de la poussière, je la jette par terre, et qu'il y a ce pupitre qui vient, Vous avez trouvé ça extraordinaire? Exactement. Dieu utilise les choses faibles. Pourquoi? Parce que plus les choses sont faibles devant lui, et plus sa gloire va être grande. Plus les gens vont se dire, mais c'est impossible que ce soit un homme qui fasse ça. C'est impossible. Il y a un Dieu tout-puissant derrière, et je veux le rencontrer. David s'est approché. Donc qui est donc cet incirconcis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? Et plus loin, il va dire à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, sérieusement? Plus loin, Saül va essayer de lui faire porter son armure. Mais tu ne peux pas porter l'armure des autres. Les témoignages des gens, des autres frères et sœurs, lorsque tu seras dans la bataille, ils ne te serviront pas. Tu devras marcher avec Dieu. Et Dieu seul. Et David s'est approché. Et le Philistin va le regarder, il va le mépriser. Il va lui dire, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Avec des bâtons. Vous vous rappelez comment on a parlé de Goliath? Tout ce qu'il avait, l'armure, tout ce qu'il avait, sa lance, etc. Comment il était incroyable. On connaît son ennemi. Il est venu juste avec un bâton. Et des pierres. Et David va lui dire, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as mise au défi. Aujourd'hui, il était convaincu. Convaincu. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Je donnerai ton corps aux oiseaux de la terre. Tu vas devenir une semence. Tu vas mourir sur le sol et la terre va aspirer ton eau, va aspirer ton sang. Tu deviens une semence. Parce que tu te bats dans l'annonce de l'évangile. Tu es en train de semer. Et la personne à qui tu parles, elle devient une semence, elle aussi. Jésus a dit, faites des disciples. Ce que je vous ai enseigné, apprenez-le et faites des disciples. Jésus nous appelle à faire des disciples. Et David savait que son Goliath, la peur, allait être écrasé par Dieu seul. Tu as besoin de regarder ton Goliath en face. Quel est ton Goliath, sérieusement, dans l'annonce de l'évangile? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est l'incrédulité? Tu leur parles de qui est Dieu, de ce qu'il a dit dans sa parole. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Je ne suis pas dans la crainte. Je n'ai peur de personne. Dans Psaume, il écrit que il y a des frayeurs qui sont là. Mais Dieu nous délivre de toutes nos frayeurs. Tu confesses et tu déclares la parole de Dieu. Vous connaissez la suite? Il va courir vers son Goliath. Il était bouillant. Hein. Il aurait pu marcher tranquillement. Il a couru vers lui. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus que cet incirconcis, il était en train de raconter des choses qui étaient fausses. Il n'en pouvait plus. Il trouvait ça insupportable. À un moment, il s'est dit, c'est pas possible, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il a couru, il a jeté une petite pierre. Une petite pierre. Ne méprise pas ce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis un trésor en toi. Dieu a tout mis en toi. Ne te demande pas comment ça se passera. Commence à annoncer l'évangile. Il n'y a pas une manière, je l'ai dit, d'annoncer l'évangile. Il n'y a pas la méthode miracle. Mais je crois que tu dois annoncer l'évangile. D'une façon ou d'une autre, si tu n'arrives pas à le faire avec tes collègues, avec ta famille, si tu ne vois personne, sors dans la rue. Reinhard Bonnke a dit, il y a beaucoup de gens qui disent, « Oh, moi, je veux être un grand évangéliste, etc. » Il leur disait, « Allez au coin des rues et annoncez l'évangile. » Je pense que c'est un exemple, Reinhard Bonnke. Non? Un des plus grands évangélistes que la Terre ait jamais connu. Il a dit, « Tu veux être un évangéliste? Va dans les rues. » Et Jésus l'a dit avant lui. Allez dans les rues. Ce que je vous ai dit, criez-le sur les toits, et dans les maisons. On doit annoncer qui est Dieu et la parole de Dieu. Donc, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Tout ce que tu fais, fais-le par amour. Fais-le par amour. Il y a ici des tracts. On en a 1000. Et c'est par rapport à la messe de Noël. Et ça, on fait ça pour annoncer l'évangile aux gens. Mais les gens, ils vont pas venir tout seuls. Hein. C'est bien de prier. Il y a des églises qui prient pendant 10 ans, pendant 15 ans. Tous les mercredis soirs, tous les mardis soirs, tous les jeudis soirs. Et prie, Seigneur, sauve des gens, sauve des gens, sauve des gens. Et jamais cette église-là n'est sortie dans les rues. Jamais. Comment vous voulez? Le travail et la prière agissent ensemble. La prière toute seule ne fait rien. Non. Et toujours avec la prière, il y aura quelque chose à faire. Toujours quelque chose à faire. Quelque chose à proclamer, quelque chose à dire. On a là 1000 tracts. Je vais être très pratique. J'aurais bien aimé. Je vais faire un appel. Et que ceux qui veulent annoncer l'évangile pendant les 13 prochains jours, qui viennent sur le devant. Maintenant. Ok. Donc, là-dessus, on ne parle pas de Jésus. C'est juste, on invite des gens à une messe de Noël. Ok? Il n'y a pas de musique dans cet appel. Parce que quand vous allez être dans la rue, quand vous allez être à votre travail, il n'y aura pas de musique. Vous allez être tout seul. Et vous n'allez rien sentir, peut-être. Rien. Peut-être que vous sentirez de l'oppression spirituelle. Parce que quand vous prenez une décision pour Dieu, parfois il y a un temps d'oppression. Surtout quand vous avez été radical. Quand la décision, c'était pas juste une décision, bon, je le fais parce que tout le monde le fait. Mais quand vous prenez une vraie décision, parfois ça amène des oppressions. Et toutes les circonstances autour de vous se placent pour que vous ne puissiez pas faire cette chose. Je me souviens un jour dans mon ancienne église en France, je partageais à propos de l'annonce de l'évangile et j'avais fait avancer des gens comme ça. Je leur avais dit, d'ici la semaine prochaine, tous ceux qui le veulent, levez-vous. Tous ceux qui prennent l'engagement d'annoncer l'évangile à une personne. Une personne. Il y a des gens qui se sont levés et moi-même j'ai levé ma main pour le faire. Et les jours ont passé. Et le samedi soir, j'avais annoncé l'évangile à personne. Le lendemain matin, je devais voir ce qui s'était passé. Parce que quand on se réunit et quand on dit quelque chose, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions, il doit y avoir des résultats, non? Et le samedi soir, je me suis dit, bah là, j'étais obligé. J'étais obligé de sortir. Donc j'étais dans la rue, tard le soir, pour annoncer l'évangile. Parce que j'avais donné ma parole. Et parce que aussi, je voulais pas avoir la honte devant les gens. Celui qui veut bâtir une tour. Et là, on est en train de bâtir des tours. Chacun de nous, on est des terrains différents. La même parole a été donnée. Mais chacun de nous va répondre peut-être différemment à cette parole. Il y a peut-être une, deux, trois personnes plus parmi nous qui vont vraiment prendre ce message au sérieux. Et en fait, pendant les prochains jours, vous allez méditer sur ça. Vous allez chercher. Et à l'intérieur de vous, il y a un fardeau qui va commencer à être créé par rapport aux âmes perdues. Et le fardeau, il est surnaturel. Il y a un fardeau qui va être mis en vous. Surnaturel par rapport aux âmes perdues. Vous savez, si vous avez un cœur pour les âmes, Dieu va parler. Dieu va vous utiliser. Vraiment. Et Dieu, là, sérieusement, la Bible dit que celui qui annonce la parole, qu'il le fasse comme si c'était Dieu lui-même qui parlait, annonçant les oracles de Dieu. Je vous annonce la parole de Dieu. C'était une parole de Dieu ce matin que j'ai reçue. Mon peuple annonce l'évangile. Vous allez tous prendre, est-ce que c'est possible de distribuer? Juste deux chacun seulement. Et vous allez vous engager pendant ces 13 prochains jours à parler à un nombre de personnes que vous-même allez déterminer. Mais on va se donner un maximum de deux. Vous pourrez parler à plus de personnes, mais vous allez parler au moins à une personne du Seigneur pendant ces 13 prochains jours. Vous prenez cette décision. Et tous ceux qui prennent les pamphlets là, restez debout s'il vous plaît. Et ici, je vais mettre une feuille. Je suis désolé, je suis un peu long. Mais le sort des perdus, ça vaut le coup. Et ceux qui le veulent, en plus de ça, samedi prochain, à 13h30, de 13h30 à 14h30, on va se donner rendez-vous devant le cégep. Donc samedi prochain à 13h30. Et ici, il y a 1000 prospectus, et pendant une heure, on va aller affronter notre Goliath. On va aller affronter notre Goliath. Et vous ne serez pas seul. Parce que là, on sera ensemble. Et lorsqu'on est ensemble, et tu peux jouer si tu veux, il y a beaucoup plus de puissance. Il y a beaucoup plus d'encouragement. Tu n'es plus tout seul. Tu l'as jamais fait? Gloire à Dieu. Il y a des gens qui vont être là. Il y a des gens qui vont t'aider. Il y a des gens qui vont t'encourager. Et si tu as, au départ, tu te sens juste capable de donner, bah tenez, c'est une messe de Noël, je sais pas quoi, tu donnes simplement. Mais plus tu vas le faire, et plus tu devras être direct avec les gens. Tu vois quelqu'un qui souffre, parce que la souffrance se voit sur les gens. Il dit, je sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment, mais je sais que le 19 décembre, si tu viens dans ce lieu-là, il y a une puissance qui va te toucher. Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie, je te l'assure. J'en suis convaincu. Si tu viens avec une conviction, si tu crois qu'il peut se passer quelque chose pour toi, je t'assure, il va y avoir un changement radical dans ta vie. Et je vais prier pour vous, pour chacun de nous. La deuxième feuille, c'est pour le samedi 18 décembre. Donc juste la veille, de 13h30 à 14h30. Donc ceux qui le veulent, soit vous vous inscrivez aux deux, soit à un seul, mais vous allez tous mettre votre nom à la fin du culte, à la fin de la réunion, sur une de ces feuilles ou sur les deux, ou sur zéro si vous voulez en faire aucune. Et on va affronter notre Goliath ensemble. Ok? Donc je vais mettre ces feuilles ici. Ici. Ou ouais, ici ce sera bien si c'est possible d'amener des crayons. Et vous allez écrire votre nom et on se donnera rendez-vous ici. Donc samedi prochain, ceux qui vont s'engager pour samedi, on va pas se revoir d'ici là si ce n'est peut-être ceux qui vont à la réunion de prière. Donc samedi, l'horaire est donné. On va se donner rendez-vous ici. Maintenant, je vais prier pour vous. Précieux Père, merci pour cette parole. Je prie maintenant. Attendez-vous à recevoir, s'il vous plaît. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Précieux Saint-Esprit, Père, je te demande au nom puissant de Jésus-Christ, ta puissance sur chacune de ces personnes. Père, tu aimes les bouillants. Tu aimes ceux qui s'engagent pour toi. Tu aimes ceux qui s'engagent pour toi, Seigneur. Et je prie pour chaque personne qui s'est engagée à parler de toi. Chaque personne qui renonce à sa vie, qui va renoncer à sa vie pendant une heure, pendant deux heures. Tu as dit, ne pouvez-vous pas prier une heure avec moi? Une heure, vous ne pouvez pas prier une heure avec moi. Père, on veut s'engager pour au moins une heure à annoncer ta parole. Seigneur, on sait qu'on est incapable par nous-mêmes. Incapable par nous-mêmes. On est peut-être timide, il y a peut-être de la crainte qui est là, mais on rejette cette crainte au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je parle à la honte, je parle à la crainte, je parle à la peur, je parle à l'intimidation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous rejette sur chaque personne ici. La honte s'en va, la crainte s'en va, la peur s'en va au nom de Jésus. La puissance de Dieu vient, la force de Dieu vient. Tu es construit, les fleuves d'eau vive coulent parce que lorsque tu es dans le plan de Dieu, la faveur de Dieu est là. Lorsque tu es dans le plan de Dieu, la puissance de Dieu est là. Tu es au meilleur endroit lorsque tu choisis de faire ce que Dieu veut. Alléluia, merci Père. On est en train de vivre quelque chose de nouveau dans cette église, je vous assure. Vraiment. Vraiment. Les noms qui sont là, ce sont des sacrifices. De bonne odeur à Dieu. La Bible dit que Dieu a écrit ton nom sur un livre. Et ce nom, il ne va pas l'effacer. De la même manière, n'efface pas ton nom. Vous voulez une prophétie? Ceux qui ont écrit leur nom... Cette semaine, il y a un moment où vous aurez plus du tout envie d'aller. Plus du tout. Il n'y aura plus cette force-là que vous avez sentie. Il n'y aura plus le message qui est là. Vous n'allez plus rien sentir. Mais face à ces choses-là, continuez à proclamer que Dieu est puissant. Opposez-vous à ce que vous ressentez avec vos sens. Il y avait Thomas qui a voulu toucher Jésus. Et Jésus l'a reproché. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Crois. Et je crois vraiment. Vous n'imaginez pas, il y a des églises qui passent 20 ans avant d'avoir une équipe d'évangélisation qui se lève. Ce que vous avez fait là, c'est un grand prix. C'est puissant. Et on va voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.